Voilà, donc je crois que maintenant techniquement tout est bon. Donc on va enfin pouvoir commencer cette émission de Radio Grand Papier. On est ravis d'être là, on est ravis d'être à Sierre aujourd'hui et pour le festival. Alors je vais d'abord rapidement réexpliquer ce qu'est Radio Grand Papier, tout ça pour se remettre un peu dans le contexte. Donc Radio Grand Papier, c'est une émission de radio mensuelle qui existe maintenant depuis plus ou moins un an et demi. On est basé à Bruxelles, on émet sur Radio Campus, donc la radio de l'université de Bruxelles. Et on s'appelle Radio Grand Papier parce qu'on est relié à une plateforme internet qui s'appelle grandpapier.org, qui est un projet en fait parallèle à la maison d'édition L'Employé du Mois, qui est une maison d'édition de bande dessinée belge. Et donc sur cette plateforme internet Grand Papier, il y a toute une série de projets, il y a beaucoup de bandes dessinées qui est publiée sur ce site, mais il y a aussi les 24 heures de la bande dessinée qui sont la plateforme sert aussi à ce projet-là et aussi donc à ce projet radio. Donc désolé pour les problèmes techniques. Alors on a en gros comme invité, on a Alex Baladi ici pendant cette première heure. Bonjour Alex. Voilà, est-ce que le micro d'Alex fonctionne? Apparemment il fonctionne. Puis plus tard on aura une rubrique qui s'appelle Autour du paysage. On vous expliquera un peu de quoi il s'agit, ça c'est dans un second temps. On aura dans un troisième temps une interview d'une demi-heure plus ou moins avec Benoît Pretzey. Et on finira avec Mathias Picard et Olivier Bron des éditions 2024. Voilà, ça c'est pour le sommaire plus ou moins des deux heures d'émission qu'on a devant nous. On a l'habitude de commencer les émissions avec une rubrique nécrologique. Et donc ici, comme on est coupé d'Internet plus ou moins depuis deux jours, on ne va pas trop dessus. On vient d'apprendre la mort de Peter Falk. Alors on est assez triste. On est donc voilà Peter Falk qu'on connaissait tous dans Les Colombos évidemment, mais on s'est aussi souvenu de deux films de John Cassavetes, Une femme sous influence et Husband, qu'on aime beaucoup dans l'équipe, et donc on va lui dédier cette émission.
Oui, Peter, on est là avec toi.
Voilà Peter, on est là avec toi comme dit Stéphane. Et donc voilà, on va commencer avec Alex. Alors première question, Alex, on voulait commencer avec toi parce que pour nous tu es un peu, on va dire le régional de l'étape ou l'habitué des lieux, ou en tout cas par rapport aux autres invités qu'on a ici. Et tu as un parcours, en tout cas quand on le regarde, pour nous assez particulier. Tu publies des choses dans des maisons d'édition au niveau indépendant qui sont assez bien établies, comme Atrabil, comme Lasso, comme d'autres. T'es plus qu'actif aussi dans tout ce qui est le monde du fanzine, avec la fabrique de fanzine qui est juste à notre gauche là. D'ailleurs, si vous entendez du bruit, ce sont des fanzines qui sont en train de se faire par tes collègues. Oui. Et puis, on aura l'occasion aussi de parler des films d'animation et oui, peut-être d'autres choses aussi que tu fais. Donc un parcours assez particulier. Alors on a regardé aussi un peu sur le net, tu as étudié la littérature, le cinéma et la vidéo, c'est plus ou moins ça?
Ouais. Voilà. Pas très longtemps. Hein.
Voilà. Et donc j'en arrive à la toute première question. Voilà, savoir comment t'en étais arrivé à la bande dessinée, quel était ce chemin qui nous semblait comme ça assez particulier.
En fait moi j'ai commencé par faire de la bande dessinée tout petit, donc c'était vraiment une occupation... que j'ai fait à partir de tout bébé quoi. Donc le dessin puis la bande dessinée très vite quoi. Et puis c'est par la suite que je me suis intéressé au cinéma puis que j'ai fait une école comme ça, mais très vite j'ai recommencé à faire de la bande dessinée. Puis c'est seulement récemment en fait, après ma rencontre avec Isabelle Nouza, que maintenant je fais des films avec elle. En fait on en a fait deux, dont un qui dure 32 minutes, qui est une adaptation de Frankenstein encore et toujours, une adaptation assez libre en fait. On a vraiment essayé de faire quelque chose qui est un peu différent de la bande dessinée, d'utiliser le langage cinéma pour faire un peu quelque chose de différent. Quoi. Et là, on vient de terminer un film qui est l'adaptation du premier chapitre de Don Quichotte en animation. Alors donc, c'est pixilation et animation papier pour ce qui est de Don Quichotte. Et pour Frankenstein, on a mélangé pas mal de techniques, dont aussi du temps réel en vidéo. Quoi.
Ok.
Bien, moi, je voulais demander un peu par rapport à ton parcours. Le trajet normal pour des auteurs qui viennent de la scène du fanzine, c'est peu à peu l'abandonner pour devenir édité par de plus grosses maisons. Et donc, ça, le fanzine est une étape d'un parcours professionnel qui mène vers la grande édition, celle avec des albums cartonnés, etc. Dans ton cas, tu as gardé une espèce de forme de militance par rapport au fanzine. Est-ce que le militant, c'est le mot que tu mettrais là-dessus?
Ouais, résistant, peut-être. Non, mais en fait, moi, j'ai été... publié assez tôt par une maison d'édition qui s'était créée à Genève. Donc quand j'ai eu 22 ans, mon premier album est sorti. Et en fait, c'était une maison d'édition qui a duré un an et demi, qui s'appelait Atos. Et ils avaient aussi une revue. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment être très prolifique, disons. Parce que jusqu'à présent, enfin avant cela, je faisais de la bande dessinée chez moi, mais je la montrais à très peu de gens. Enfin, c'était vraiment. Et j'avais du mal à terminer mes histoires aussi. Le fait d'avoir une revue qui sort tous les mois, ça m'a aidé en fait à vraiment m'y mettre. Et quand la revue s'est arrêtée, que l'édition s'est arrêtée, tout d'un coup, je me suis retrouvé un peu dans le vide. Et c'est là que j'ai commencé à faire des fanzines. Donc, c'est venu presque à l'envers en fait. Oui. Et j'ai commencé à faire des fanzines, et puis ensuite j'ai fait un projet qui a été accepté par Delcourt quelques années après, en 1997. Et là je me suis dit, bon, ben, je vais peut-être arrêter de faire des fanzines. Mais en fait, très vite, je me suis rendu compte que par le fanzinage, j'avais quand même une approche, déjà par rapport au lecteur. Je me suis retrouvé dans un réseau de gens qui faisaient des fanzines, etc., une correspondance. Et que, oui, effectivement, c'était quelque chose de très différent, en fait. Et que le fanzina, c'était pas du tout simplement un tremplin pour aller vers des gros éditeurs, mais que c'était quelque chose en soi, en fait. Qui est effectivement une forme de résistance, un autre réseau, une autre manière de fonctionner, quoi, par rapport aux grosses maisons ou même aux petites éditions indépendantes.
Est-ce qu'il y a dans ce que tu fais un versant qui est celui de montrer à des gosses, à des ados, cette espèce de manière de produire? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de cathartique? Enfin, quelle est l'idée de fabrique de fanzine?
Alors l'idée, en fait, c'est marrant, c'est venu en 2003. Le festival de Sierre de l'époque, qui n'est pas Sismix, hein, mais qui était celui de l'époque, qui était un peu toute la bande dessinée. Donc il y avait à la fois la bande dessinée très commerciale et des gens comme nous qui étaient invités. Et il y avait une exposition de Jean-Marie Derschied, avec des différents box, en fait. Enfin, c'était des gros cubes en bois de 9 mètres cubes. Il y en avait plusieurs dans une rue, en fait, à Sierre. Et ils avaient demandé à Trabil de faire une exposition pour un des cubes. Et donc, ils ont demandé à des auteurs, en fait, maison, Imnal Rabin, Andreas Kundig et moi, de proposer quelque chose. Et c'est là qu'on a proposé la fabrique de fanzines. Et à partir de là, en fait, on pensait le faire qu'une seule fois. Hein. Donc le but, c'était de faire plein de fanzines pendant la durée de l'événement, de demander une photocopieuse avec de l'encre, du papier, et pendant la durée de l'événement, que nous, on fasse plein de fanzines, mais que n'importe qui puisse en faire avec nous. Que ce soit des dessinateurs reconnus, comme des enfants, des amateurs, etc.
Et qui en faisait l'animation, c'était... Vous en faisiez une animation ou alors les gens pouvaient joindre et s'asseoir et travailler?
Ils pouvaient joindre et se mettre à travailler. Donc c'est pas un atelier, hein. c'est pas un atelier fanzine où on apprend à faire un fanzine. Ça fonctionne uniquement par émulation. Nous on en fait plein et ça donne envie aux gens d'en faire. Après, évidemment, s'ils ont des questions, comment ça marche, comment il faut faire des pliages, etc., enfin, des trucs techniques, évidemment, on est là pour aider, mais c'est pas un atelier, quoi.
Par rapport à la... Juste par rapport à la fabrique de fanzines, il y a un bouquin qui sort, c'est quoi sur mes petites notes, c'est en septembre, et ouais. Donc la fabrique de fanzines par ses ouvriers même, ça va se présenter comment ce bouquin?
Alors c'est un livre qu'on a fait l'été dernier, où on a fait ça à la Saline Royale d'Arc et Sénan, parce qu'on avait été invité à Pierre Feuille Ciseaux, la première édition. Donc c'est une résidence de 10 jours à la Scène Royale d'Arc et Sénan, avec une vingtaine d'auteurs. Je crois même que la première fois on était 27. Il y a plein d'auteurs de bande dessinée qui pendant une semaine font des exercices tous ensemble, enfin, on fait plein de trucs. Il y a aussi de la sérigraphie, il y a toutes sortes de choses. Et le week-end, à la fin de la semaine, c'est ouvert au public et les gens peuvent voir ce qu'on a fait pendant la semaine. Donc ça, c'était quelque chose de vraiment nouveau, enfin, c'est qui est absolument fantastique, quoi. Et on l'a fait deux fois, d'ailleurs. Enfin, on a été réinvité, en tout cas pour Andreas, Mathieu et moi, la deuxième fois. Et puis, la première fois, en fait, il y a eu un échange de mails à la suite de ça, et le responsable de la Saline, Lionel Viard, nous a dit que si on avait un projet, la Saline était ouverte. Si on avait un projet pour écrire un livre, faire quelque chose. Bon. Donc on a dit que nous, ça faisait longtemps qu'on voulait faire un livre, en fait, une bande dessinée où on raconte un peu notre expérience de la fabrique de fanzines. Et donc on a proposé, on a demandé si c'était possible de venir deux semaines pendant l'été, c'est ce qu'on a fait. Quoi. Donc on s'est réunis les cinq, on a pris tous les fanzines qu'on avait faits, il y en avait à peu près 3000, quelque chose comme ça, pour un peu les lire, les feuilleter, se remémorer un peu toute cette expérience. Et pendant deux semaines, on a écrit et dessiné l'histoire de la fabrique. Donc ça donne un truc un peu spécial, hein, parce que c'est quand même cinq personnalités différentes.
Un objet hybride qui...
Ouais, voilà.
Et historique. Okay. Pour revenir un peu sur ta production à toi, tu parlais tout à l'heure de la difficulté de terminer. Il y a dans ta production quelque chose qui est comme une façon de démarrer des projets, de les démarrer vite, comme si parfois on a l'impression que tu as peur de pouvoir pas avoir la longueur, le temps, l'énergie nécessaire pour les clôturer, raison pour laquelle on a l'impression que tu fais des projets relativement courts. On a été très content de voir ton livre sur Frankenstein, justement, parce que là on a un récit long, donc quelque chose qui condense un peu ta pensée, qui structure un récit de manière un peu plus longue, avec des ellipses, on suit plusieurs personnages, on revient de l'un à l'autre. Et est-ce que je me suis demandé si c'était lié à ton mode de vie lui-même, qui était celle d'un nomade, et que tu avais qui changeait relativement souvent d'endroit entre Berlin, la Suisse, Bruxelles.
Je sais pas, j'ai pas tellement réfléchi à ça. En fait, c'est
on l'a fait pour toi. En fait. Hein? On l'a fait pour toi, j'ai dit.
Ouais. Non, mais ça s'est fait un peu comme ça. Enfin, ce que tu veux dire, c'est que maintenant, je fais des récits qui sont un peu plus...
Tu fais rarement des récits qui sont relativement longs. Connais par des tas de petits fanzines, parfois de 8 pages, de 16, 32.
Oui, bien sûr. Bon, après, j'ai fait des choses aussi comme Baby, qui fait plus de 100 pages, mais c'est un récit un peu spécial. Hein. C'est muet, enfin, c'est assez expérimental. Ces derniers temps, effectivement, j'ai fait des choses qui étaient assez courtes. Bon, c'est un peu présenté comme ça. Bon, il y a la série Benny aussi que je fais chez Atrebil. Ouais. C'est un peu plus long, mais comme c'est un petit format...
Mais qui sont chaque fois, finalement, des petits formats.
Donc c'est relativement court.
Après, si les gens suivent, ça fait une œuvre plus conséquente, mais prise comme ça, ça fait chaque fois des
petites choses. Là, j'ai des projets, justement, d'histoire un peu plus longue, notamment un projet d'histoire de pirate pour Hoochie Coochie. Ça fait un moment que je suis dessus. Quoi. Et puis j'ai une histoire d'Heroic Fantasy aussi, mais je ne veux pas trop en parler pour l'instant.
Dingue.
Ok. Il y a Christophe aussi qui s'est joint à nous. Bonjour Christophe.
Hello.
Oui.
Bonjour.
Bonjour Christophe. Je n'ai pas spécialement de questions pour Christophe, mais...
Mais on peut quand même dire par rapport à notre ami Baladi que tu as été un peu quelqu'un qui le soutient directement, puisque c'est quand même un habitué du festival.
C'est plutôt le contraire, je crois. Alex, depuis le départ, avec la fabrique de fanzines, nous a clairement soutenus et sont venus sans condition, avec grand plaisir pour nous.
On aurait dû peut-être faire quelques conditions. Non, mais en fait, c'est super. L'énergie qu'il y a au Sismix, en fait, on est totalement... c'est un festival qui est totalement fait pour la fabrique de fanzines. Si vous voulez, on est totalement en adéquation avec l'esprit en fait du festival. Ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Des fois, on se retrouve dans des festivals un peu plus de bande dessinée commerciale.
Ouais. Dans lequel vous faire figure d'auteur un peu exotique qui arrive avec des choses marrantes.
On se retrouve dans un... Il y a toujours eu de la participation à part ça, hein, dans la fabrique de fanzines. C'est assez dingue. Hein. Même dans des endroits où c'est un peu difficile, tout d'un coup, on se retrouve dans un salon du livre où les gens nous prennent un peu pour la garderie pour enfants, etc. Même là, il y a quand même des choses. Il y a toujours eu des choses intéressantes. On est assez étonné en fait. Mm-hmm. Même une fois, on s'est retrouvé dans un home pour vieux. Et là, je me suis dit tiens, peut-être que. Enfin, au début, ça n'a pas tellement fonctionné. Quoi. J'ai pensé que ça allait pas prendre en fait. Quoi. Parce qu'ils ont mis un peu, mais simplement, ils étaient un peu plus lents et ils ont quand même fait des fanzines et c'était merveilleux. Quoi.
Étonnant.
Voilà.
Ok. On va juste quand même citer les autres personnes qui sont dans la fabrique de fanzines, parce que finalement on en parle pas mal, et ouais. Ils sont de nouveau, je le disais, actifs juste à ma gauche, donc il y a, je te laisse le faire, peut-être c'est plus facile.
Alors il y a Andreas Kundig, qui se retrouve pas loin d'ici, mais on le voit pas depuis là.
Ah, il est juste derrière toi.
Il est juste derrière moi.
C'est un piège.
Travail.
Il adore parler au micro.
Andreas Kundig qui apparaît.
Donc nous accueillons Andreas Kundig qui... Tu peux peut-être te présenter rapidement, Andreas. On parlait de la fabrique de fanzines et des gens qui sont actifs dedans. Et tu arrives juste à ce moment-là et maintenant tu as un micro en main. Donc c'est l'occasion
de dire bonjour.
Voilà.
Oui, nous dire quand tu es arrivé dans la fabrique de fanzines. Dès le début, un peu après.
Ouais, dès le début. Ouais. Même avant le début. Enfin. J'étais là au début.
Ok, bonne réponse.
Et ton parcours, sinon, je veux dire, tu publies quoi, tu publies où
Je travaille depuis des années à un bouquin qui va être publié aux éditions Atrabil, s'ils existent encore, qui sera fini.
D'accord.
Et sinon, ces dernières années, j'ai surtout fait des fanzines à la fabrique, mais je publie des histoires dans Bille Noire aussi. Et avant ça, j'ai fait des livres qui sont maintenant épuisés.
Est-ce qu'il y a un désir parfois de... Bon, il y a ce bouquin qui va plutôt être un bouquin un peu historique dans lequel vous avez raconté l'expérience. Toi, tu disais que tu avais publié énormément de choses avec la fabrique. Est-ce qu'il y a une tentative parfois de faire de la compilation avec ça? Ou alors c'est des choses qui sont tellement spécifiques à l'outil fabrique que c'est inexportable sur d'autres supports, que des bouquins un peu plus épais, un peu plus luxueux? Est-ce que...
C'est forcément des choses qui sont plus courtes, alors... On peut pas tellement en faire des trucs très épais, quoi. Mais on a des idées à la fabrique qu'on peut réutiliser ailleurs. C'est aussi un bon endroit pour essayer des choses, quoi. Et, voir qu'il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas. Et ça arrive aussi qu'on fait un fanzine qui est excellent et qu'on essaie de le redessiner bien et puis de l'adapter pour l'inclure dans une histoire, ça fonctionne moins bien. Mmh.
Ok, on va revenir peut-être un peu alors parce que le temps passe sur plutôt les films d'animation. Ouais. Comment t'en es venu à cette technique? Est-ce que donc c'est quelque chose qui est venu assez vite? C'est quelque chose qui est venu un peu plus tard dans ton parcours?
Moi, que je l'ai dit, c'est par rapport à une rencontre avec Isabelle en fait, qui faisait déjà des films, et puis elle faisait pas mal de pixelation. Donc voilà, on s'est dit tiens que ce serait intéressant peut-être de faire une autre version en fait de cette bande dessinée sur Frankenstein, parce que ça, l'histoire s'y prêtait. En fait. Et voilà, donc on a fait ça et on a essayé d'utiliser pas mal de langages différents et d'utiliser aussi le dessin justement, ce que je pouvais apporter en tant que dessinateur et ce qu'elle apportait. Avec son expérience dans les films expérimentaux, etc. Donc voilà. Donc c'est une rencontre en fait.
C'est vrai que toi tu dis film d'animation. J'aurais plutôt tendance à considérer que l'animation ça fait partie des effets spéciaux du film. Je sais pas si vous considérez faire de l'animation spécifiquement. C'est plutôt comme tu dis expérimental, mais ça se résume pas à cette technique-là en particulier. Il y a des acteurs, il y a un décor.
Ouais. Comme je disais, donc il y a plusieurs techniques d'animation, comme la pixelation, donc avec des acteurs. Voilà. Après, il y a aussi du temps réel. Dans Frankenstein, en tout cas, il n'y a pas que de l'animation. Il y a du dessin animé qui est juste utilisé pour le titre. Dans Don Quichotte, on a utilisé de l'animation papier, etc. Donc on essaye d'utiliser de différentes formes. Et puis on a tourné à part les scènes en vidéo, on a tourné des scènes en 16 mm. En fait. Et par exemple, dans Don Quichotte, il n'y a aucun effet qui a été fait par la suite, à part le montage, évidemment, etc. Mais la plupart des effets sont faits pendant le tournage. Quoi.
Ça donne vraiment un côté expressionnisme allemand. On pense au docteur Caligari. Enfin, c'est vraiment flagrant.
Voilà, c'est ça, oui.
Il y a aussi un côté un peu grimaçant à la Méliès. Je trouve que ton maquillé et imitant Don Quérote, tu as quelque chose du Méliès, un peu sautillant, grimaçant, faisant des effets de bouche comme ça, des choses, le visage très très blanc.
C'est possible, ouais.
Donc ça nous ramène quelque part à une espèce de début du cinéma. Est-ce que c'est quelque chose que tu cherches à retrouver au niveau de la texture dans ce film ?
Bah, c'est sûr que c'est une influence, hein. En plus, on utilise des films qui parfois, de la pellicule qui a parfois 30 ans, des bouts de pellicule qu'on récupère, etc. Mais c'est, et donc nous, ça nous intéresse en fait, le fait qu'il y ait un peu ce côté-là, un peu des taches, etc., des griffures. Donc, par exemple, ouais, pour ça, c'est intéressant en fait, cet esthétisme. Et le côté, effectivement, les premiers films. Je me suis aussi pas mal inspiré des dessins de Gustave Doré. Il y a notamment une scène qui est pratiquement la reproduction du dessin où il est en train de dormir. Et pour les dragons aussi, je me suis inspiré en reprenant ça, évidemment, d'une autre manière. Mais on l'a mis dans les remerciements à la fin.
J'ai l'impression que ta pratique de l'animation et du cinéma a pu influencer en retour ta pratique du dessin en tant que telle, sur les fanzines.
Certainement, ouais. D'ailleurs, toute pratique, chaque fois que je pratique le dessin, que ce soit pour préparer ou faire des personnages pour les films d'animation, ou alors à la fabrique de fanzines, si je commence à faire une fresque, etc., à chaque fois que je dessine et que j'emploie une nouvelle technique, évidemment, je découvre des choses. Et ça influe ensuite sur mes bandes dessinées, ma manière de dessiner, et même de créer des histoires.
Ouais. Et pour Don Quichotte, donc on a vu l'épisode 1 hier soir, premier mondial à Sierre. Vous envisagez de faire la suite ?
En fait, on s'est dit... Alors, il y avait l'idée de faire Don Quichotte, mais de faire quelque chose avec Don Quichotte. Et on s'est dit, tiens, on va juste prendre le premier chapitre et essayer de bien faire le premier chapitre. Plutôt que de faire une espèce de résumé qui allait trahir un peu l'histoire, etc. Et évidemment, si on trouve un producteur qui est très intéressé, un producteur fou, on est prêt à faire les 52 chapitres. Mais pour l'instant, on va peut-être s'en tenir à ça, en fait.
Bon, j'espère
parce que
vous
le premier chapitre est assez cohérent aussi, c'est parce qu'il est tout seul. Enfin, c'est vraiment c'est un truc en soi aussi. C'est pas On n'allait pas faire, par exemple, les deux premiers chapitres, les trois premiers chapitres, mais le premier chapitre, c'est quelque chose en soi qui fonctionne assez bien.
Et du coup, un film comme ça, donc hier, première mondiale, mais il peut être projeté où, comment, comment ça fonctionne au niveau de ces circuits-là qu'est-ce que vous espérez, par exemple, pour ce film
L'envoyer à des festivals qui le prennent, et puis voilà, quoi. Et ensuite, évidemment, ce serait intéressant de sortir peut-être un DVD avec les films qu'on a faits, mais... il faut qu'on réfléchisse comment.
Là, pour l'instant, vous produisez ça à vos frais, c'est de la récup ou vous avez déjà des budgets
Alors,
fonctionnez comment
Pour Frankenstein, on a eu de l'argent de la Suisse et de la Belgique et de la ville de Genève en fait et de la Belgique. Et pour Don Quichotte, on n'a rien eu, mais il nous restait un peu d'argent de Frankenstein. Donc on l'a fait nous-mêmes et on l'a tourné chez nous en fait, dans notre appartement pendant un mois. Voilà, donc
en tout cas ça se voit pas, il y a vraiment un côté très cohérent, le décor, c'est fabriqué, on voit c'est des décors, des collages et tout ça, mais il y a quand même un aspect très quand on regarde ça on se dit pas que c'est fait avec des bouts de ficelle, c'est pas de la récup, c'est pas je trouve qu'il y a un côté très abouti. Tu me dirais, ça a été produit, on a eu un budget, on a pu faire tout ce qu'on voulait, je serais pas étonné. Il y a vraiment...
Ah ben, tant mieux.
Vincent, tu avais une question ou une remarque par rapport à la question de l'adaptation chez
Balé. Quelque chose qui se ressentait à la fois dans Don Quichotte et dans le livre Frankenstein. Dans le livre Frankenstein, il y a cette case où un des personnages féminins lance une grande tirade un peu maladroite sur un monstre, on est tous un peu des monstres, on est tous un peu rapiécés, et la créature lui répond... J'ai jamais entendu d'aussi démago de ma vie. J'avais l'impression aussi dans Don Quichotte qu'il y avait une volonté de représenter ou de réinterpréter, mais pas une volonté d'avoir un discours, pas une volonté de refaire une nouvelle dimension d'un Frankenstein, par exemple, mais de refaire une vraie histoire à partir de ce matériau de base. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux...
Disons qu'en fait, en faisant Don Quichotte, on s'est aperçu qu'il y avait certains liens avec, effectivement, l'histoire de Frankenstein et puis surtout le film qu'on en a fait. Et donc on a réutilisé aussi certaines techniques comme les pop-up, etc. Mais il y a un côté aussi dans le fait que Ouais, dans le personnage même, la manière dont il se met en scène lui-même, qu'il imagine, et le côté un peu, exclu, quoi, en fait. Il y a quelque chose, il y a un lien, en fait, ouais.
Est-ce qu'il y a un refus, quelque part, du discours par rapport à
l'interprétation
de l'histoire, voilà, c'est de pas forcément donner une nouvelle vision de la chose, mais plutôt vraiment
pour raconter une
histoire. À la fois aussi pour Frankenstein, c'est surtout cette case qui m'a beaucoup marqué, où la créature lui répond « c'est démago ce que tu viens de faire
ouais. ».
Comme une espèce de refus de la banalité des discours sur une, qu'est-ce que c'est qu'un monstre, est-ce qu'on n'est pas tous des monstres, etc.
Ouais, peut-être, ouais, c'est ça. Ouais. Après, bon, c'est quand même... on reste quand même là-dedans, hein, mais... Je sais pas trop comment répondre à cette question.
C'est aussi lié au fait que Don Quichotte a l'air très fidèle à l'histoire de base, très excessivement, parfaitement fidèle, au lieu de dire
on l'a même fait
à nouveau Don Quichotte modernisé, etc. Non, là, c'est pas du tout le cas.
Mm-hmm.
Et ça se ressent aussi, je trouve, dans Frankenstein, même si évidemment l'histoire est différente de l'histoire de Shelley.
Alors Frankenstein, c'est vraiment une histoire autour de Frankenstein, donc c'est pas Frankenstein lui-même, même s'il y a une scène qui est racontée, qui est tirée du livre, en fait. Mm-hmm.
Mais lui-même reste le Frankenstein. Je sais pas, on pourrait pas dire que c'est des morceaux de viande du prisonnier qui auraient été rapiécés par un mec, etc. On reste, c'est le Frankenstein lui-même. Il est pas réinterprété. Simplement, il devient le centre d'une autre histoire. Mais un peu comme ton Don Quichotte reste le Don Quichotte d'origine, c'est-à-dire ce type qui a lu tellement de romans qu'à un moment donné, il est devenu fou et veut se lancer lui-même dans une croisade et recherche les attributs qui vont lui permettre de le faire.
Ce qui est déjà, ce qui reste en fait moderne et contemporain. À mon avis, quoi. Donc il n'y a pas besoin d'essayer de forcer le trait, de trouver un lien forcément entre Don Quichotte, le Don Quichotte et un Don Quichotte qu'on aurait à créer dans le monde moderne ou avec des... parce que c'est déjà très moderne, en fait. Je trouve que le lien se fait très vite, en fait.
Pour revenir et sans doute clôturer aussi un peu, revenir sur le fanzine, on se posait la question là tantôt, est-ce que pour avoir fait du fanzine depuis longtemps, être actif dans la fabrique de fanzine et tout ça, est-ce que toi tu as une vision peut-être plus globale du fanzina ou de la production actuelle, est-ce que tu suis ce qui se fait pour l'instant, comment est-ce que
un petit peu, mais, enfin difficilement, moi c'est à travers des rencontres, hein. Moi je vais tous les ans à Angoulême, donc puis avec la fabrique, on rencontre des gens, etc. Donc on découvre des choses comme ça, quoi.
J'ai l'impression qu'on est revenu depuis quelques années. Le fanzine a repris des lettres de noblesse. Il s'était un peu perdu à un moment donné. J'ai l'impression qu'ici, des tas de gens refont. Je pense par exemple à Pierre Morel qui a fait autour de Blackbird, qui a ressorti ça dans une forme native sous forme de fanzine, les a distribués comme pendant toute une partie. J'ai l'impression qu'on revient à cette espèce de beauté noble de la feuille 80 grammes photocopiée comme une manière d'entrer en contact direct avec des gens, retrouver une série de qualités qui sont peut-être perdues par toute une série de structures comme les requins marteaux, comme l'employé du mois, qui sont passés à des diffuseurs, donc à un rapport plus lointain au contact qu'il y a, dirions-nous.
Bah, effectivement, il y a plusieurs auteurs qui ont cette démarche. En même temps, sur Internet, il y a les blogs, il y a toutes sortes de moyens maintenant, en fait, de faire des choses. Mais il y a pas mal de gens qui reviennent, en fait, à ce côté photocopié, très simple. Voilà, quoi. Effectivement. Qu'est-ce que je voulais dire, je sais pas.
Toi, tu étais celui qui a, comme une lame de fond, continué à...
Ouais, enfin, j'étais pas le seul. Hein. Déjà, à l'époque, il y avait d'autres... D'ailleurs, c'est ça que j'ai découvert, vraiment, en faisant du fanzina, parce que moi, je me rendais pas trop compte. Moi, je me suis mis à faire des choses dans cette revue.
Qu'il y avait d'autres personnes...
Je faisais de la bande dessinée, comme je vous dis, dans mon coin, mais je montrais pas ça aux gens. Et puis, une fois que j'ai commencé à faire du fanzina, ça m'a... Directement, je me suis retrouvé dans un réseau, en fait, d'autres gens qui faisaient des fanzines, et on s'envoyait ça par la poste, etc. Donc j'ai découvert, en fait, tout un monde avec vraiment beaucoup de gens. Il y a évidemment plein d'auteurs qui continuent à faire du fanzine en étant édité, comme Pierre Morel, comme Matt Conture, etc. Donc il y en a pas mal.
Non, c'était...
Alors je sais pas à quel point ça devient, c'est quelque chose qui se développe, c'est difficile à dire. Je sais qu'à un moment donné, dans l'art contemporain, le fanzine était aussi un peu à la mode, entre guillemets, quoi. Donc
voilà, plutôt quoi. Du Gravesdin pour le coup, hein. la narration et l'art contemporain ont toujours eu des rapports un peu compliqués.
Il y a des choses intéressantes aussi qui ont été faites.
On s'était rendu compte déjà de ces connexions, d'une série de connexions comme ça, quand on avait Angoulême précédent interviewé toute une série de gens comme Jonathan Larrabee, Big Ben et plein d'autres qui en fait Gilles Rochier aussi s'étaient rencontrés, connectés les uns aux autres par l'intermédiaire du fanzine quoi, et que ils avaient créé une sorte de réseau un peu par hasard en fait, chacun faisant du fanzine dans son coin et puis se rencontrant de festival en festival et voilà et les choses se mettant un peu comme ça. Parfait, on va clôturer là la première partie de l'interview. Si tu as le temps, donc tu restes avec nous pour la seconde, où là on va plus parler d'autres arts liés à la bande dessinée. Donc on va s'écouter un premier morceau de musique d'Otanzerbus. Otanzerbus, c'est un groupe basé à Bruxelles, mais de gens qui viennent d'horizons différents. Il y a notamment Pascal Maté qui joue dedans, qui a une expo ici en haut, qui est intégré, on va dire, à l'expo d'Ilan Manouache. Et c'est un morceau qui s'appelle C2D. Voilà, de retour en direct au Sismix pour cette émission Radio Grand Papier. On va vous faire une petite rubrique autour du paysage. Alors la rubrique autour du paysage, c'est une rubrique qu'on fait maintenant quasiment depuis le début de l'émission, un peu de choses près, donc ces émissions mensuelles. L'idée, enfin il y a deux idées sous-jacentes là-dessous, sous cette rubrique. C'est la première chose, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il existe une vraie porosité entre la bande dessinée et toute une série d'autres arts, que ce soit la photo, l'animation, le cinéma, la musique. Et donc ça nous semblait intéressant de désenclaver un peu comme ça la bande dessinée, de ne pas parler que de bande dessinée dans une émission consacrée à la bande dessinée. Seconde chose, on s'est aussi assez vite rendu compte que la majorité de nos invités, et Alex Baladi aujourd'hui, Benoît Pretzel et Mathias Picard en sont des exemples, mais d'autres personnes qu'on a eu l'occasion d'inviter aussi à Bruxelles depuis un an et demi, sont des personnes qui pratiquent souvent, qui ont plusieurs pratiques justement, donc qui ne font pas que de la bande dessinée, mais qui font d'autres choses. Donc du coup ici, dans cette rubrique, on s'est dit que pour le coup, on allait chercher un peu, réfléchir à des artistes suisses dans plusieurs domaines qu'on aime bien, dont on voulait parler aujourd'hui. Et je passe la parole à Johanna pour faire une transition avec le fanzine un peu et l'animation qui va nous parler de deux choses différentes.
Voilà, je vais d'abord parler de Pascal Maté, qui est donc un auteur d'origine suisse qui sévit maintenant depuis plusieurs années à Bruxelles, notamment dans le paysage du fanzine. C'est un peu un personnage incontournable puisqu'il a mené pendant plusieurs années un projet qui s'appelle Soap, qui est donc un A5 noir et blanc,
couverture
avec une
rose.
Belle couverture rose.
Ou dorée.
Ou dorée, ça c'était un exemplaire spécial. Il y a eu 36 ou 37 numéros qu'on regroupait jusqu'à 15 auteurs parfois. Donc il y avait Alain Munoz, Alex de Motté, Bulu, Sacha Gerg, Karl Rosens et plein d'autres. Donc là c'était plutôt dans chaque fanzine des récits de quelques pages, donc chaque fois plusieurs auteurs. Et puis il a décidé d'arrêter ça, cette série-là. Et puis assez récemment, il s'est lancé dans un nouveau fanzine qu'il a appelé We All Go Down. Donc il y a 10 numéros pour le moment. Alors je pense que ça pouvait être dans Autour du paysage, parce que je trouve qu'on quitte un peu le fanzine traditionnel pour être dans un fanzine où il y a un seul auteur qui est en fait anonyme sur papier. Donc on a juste le titre, le numéro, et puis Habeas Corpus, parce que ça fait partie d'Habeas Corpus. J'en profite pour dire que Pascal fait partie de cette structure. Donc ce sont des livres, ce sont 12 pages, c'est noir et blanc, chaque numéro, donc c'est un auteur, et la couverture est d'une couleur différente à chaque fois. La contrainte en fait pour les auteurs, c'est d'être le plus sombre possible, ce qui veut dire qu'au niveau du récit c'est très très ouvert, donc on quitte un petit peu le récit classique qu'on peut trouver dans le fanzine. Donc j'ai quand même eu l'autorisation de Pascal de citer quelques noms.
Allons-y.
Donc on a Jérôme Puigros Puigenet, on a Pascal aussi qui a fait des exemplaires, on a Ilan Manouache dont on parlait par rapport à l'expo Limbo. On a Alexandre de Motté, Sacha Gerg, et moi j'ai un petit coup de cœur pour les exemplaires de Freddy Nadolny. Il y en a deux, ils sont très très beaux. Enfin, ils sont tous très beaux en fait, ce sont des beaux objets. Recherche graphique très intéressante.
Ce sont des objets assez simples en fait, puisqu'on a une couverture, tout est en noir et blanc, et dont la couverture sur un papier de couleur. Et on a une très grande charge au niveau de la poudre, puisque c'est de la photocopie. Donc on a des pages très chargées, très noires, des récits très elliptiques, voire inexistants, qui semblent inexistants, on peine à chercher. Et ça en fait des objets tout à fait étonnants, tout à fait particuliers. Et Dieu sait que c'est difficile de faire quelque chose qui soit vraiment tranchant dans le domaine fanzine, tant la production a été énorme. Baladi nous parlait de la fabrique de fanzine qui en avait fabriqué rien qu'à elle seule 3000. Donc là, on a quelque chose qui a pris une marque très très forte. Pascal a quand même cette espèce de vision, cette capacité de donner une ligne à un objet très particulier.
Ouais. Bah, Soap, c'était un mensuel, donc c'était d'une régularité incroyable, ouais, voilà, métronomique. We All Go Down, c'est un petit peu plus aléatoire, je crois, au niveau de la sortie. Par contre, ce qui est aussi...
c'est avant tout des rencontres aussi avec des auteurs, la volonté de travailler avec certains auteurs, donc qui parfois, du coup, mettent un peu plus de temps ou moins de temps à les produire, quoi.
Et alors, ce qui est remarquable aussi, c'est hors antenne, on parlait aussi de qu'il y a eu un moment, il y a des livres-objets plus qui ont émergé avec plus de sérigraphie, des choses un peu plus chiadées. Et Pascal, c'est réellement une volonté de toujours être resté dans une manière de produire un fanzine extrêmement simple. Je crois qu'il passe même pas par le PDF, donc ça reste. Enfin, peut-être ça parce qu'il travaille avec des auteurs qui sont parfois pas à Bruxelles, mais Soap, c'était de la photocopie pure et dure. Et ça, c'est toujours quelque chose qui, c'est quelque chose qu'il n'a jamais voulu quitter, quoi. Et il arrive quand même à se renouveler, donc je trouve que c'est remarquable. Voilà.
Absolument.
Et donc tu voulais aussi, toujours par rapport à ce dont on a un peu parlé avant, par rapport à l'animation, nous parler de...
De Georges, alors je sais, je le prononce peut-être pas bien, Baladi, mais tu, je sais pas si tu connais Georges Schwitzgebel. Schwitzgebel, voilà. Donc c'est dans l'animation, c'est pas du tout. Tout à l'heure, on a un peu évoqué le cinéma expressionnisme allemand. Et j'avais envie de parler des Brother Case ou de Zwenkmeyer. Alors Schwitzgebel, c'est pas du tout ça. Mais c'est quand même un animateur assez remarquable dans le paysage de l'animation. Il a commencé à faire des films dans les années 70. Il a derrière lui une bonne vingtaine de films et donc voilà, c'est pour moi ça fait partie des réalisateurs historiques parce qu'il a amené une technique, enfin il l'a pas amené mais bon, il a développé une technique de peinture, peinture sur cello, qui est quand même très très belle. C'est très lié à la musique en fait, il a un rapport très intime avec la musique, il est très inspiré par des musiques classiques, notamment la forme de la fugue, donc ça peut être Bach, mais il a aussi pris Mendelssohn. Donc c'est des formes de musique qui comportent des contraintes, et ces contraintes-là, il les réutilise dans son animation, en fait. Et alors, il a une manière d'animer qui est très particulière. Il utilise différents flux, donc on peut avoir un décor qui va être animé à 3 images secondes, et puis une action qui va être animée à 8 ou 12 images secondes. Et donc, il n'y a pas de montage, en fait, dans ces animations. Et donc, c'est une succession de transformations. Donc, c'est des jeux de formes ou des jeux d'idées. Donc, une tasse de café, ça va devenir un escalier, ça va tourner, et puis ça va encore devenir autre chose, et ça se transforme sans arrêt. Donc, des fois, on trouve un peu de sens. Lui aussi, il s'est réapproprié Faust ou Cendrillon, mais ça reste... je trouve qu'en termes de récit, ça reste quand même assez, assez abstrait. C'est surtout pour moi un jeu de forme et un jeu de rythme avec la musique. Et alors, sur notre blog, moi j'ai choisi de poster le Vol d'Icare, qui est en fait son premier film, et qui n'est pas en peinture, qui est en fait un jeu de pastilles colorées. Et ça m'a vraiment amusé de voir ce film, parce qu'en fait c'est donc géométriquement très simple, l'animation, le mouvement est très réduit, parce que comme c'est une énorme contrainte, quoi. C'est vraiment des pastilles de couleurs.
C'est proche du pixel art.
Voilà. Mais bien avant.
Ouais, dans les années 70.
Et alors la musique, c'est François Couperin, c'est du clavecin. Et en fait, moi, avec ma culture Game Boy des années 80, j'ai l'impression de voir un jeu vidéo. Donc je trouve ça vraiment très très amusant. Je l'ai mis sur internet. Sinon, quand il passe à la peinture, c'est des couleurs très franches, c'est très contrasté. On pourrait penser à Edward Hopper ou de Chirico aussi quand il dessine des bâtiments. Voilà. Si vous regardez des films plus récents, je sais plus si j'ai mis un lien, mais je conseillerais plutôt d'aller voir La jeune fille, les nuages ou L'année du daim. Mais en tout cas, je trouve que plus il avance dans les années, plus la technique se sublime, on va dire. Il y a des passages dans les années 80 qui sont peut-être un peu plus kitsch ou un peu plus discutables, mais sinon il y a une technique de peinture qui est quand même très très belle. Ce sont des formes simples. Voilà, j'encourage les gens qui s'intéressent à l'animation, enfin qui s'intéressent à l'animation, d'aller voir ça. Voilà.
Toi, Alex, tu connais son travail ou est-ce qu'il y a d'autres, par exemple, d'autres animateurs suisses ou même d'autres pays qui t'ont inspiré ou dont le travail comme ça te vient à l'esprit quand on parle, par exemple, de Schwitzgebel?
Ouais, il y a d'autres gens. Schwitzgebel, c'est vraiment. Une espèce de maître justement dans son domaine. J'ai vu beaucoup d'expositions et chaque fois qu'il y a un film qui sort, il y a une exposition, un papier gras, donc c'est aussi comme ça que j'ai bien connu son travail, quoi. Voilà.
Il a aussi pour les gens qui vont parfois à Genève, je sais pas si tu as déjà vu ça, moi je les ai jamais vus, il y a deux installations en fait de lui, parce qu'il est graphiste à la base et affichiste. Et donc c'est la ruelle du Midi et il y a une fresque anamorphique en fait qui représente le jet de Genève.
Je sais pas. C'est récent ça, parce que j'habite plus à Genève.
C'est très vieux en fait. Ça date des années 70 ou 80, je crois.
Je vois pas du tout ce que c'est.
Et il y a un autre endroit. Alors attends, il y a. Je vais retrouver. Voilà. Et sinon, place de la Navigation, tu vois où c'est?
Ouais.
Il y a une dalle à motif géométrique en fait, un gros bloc avec. Une sorte de bas-relief comme ça, géométrique.
Ah ouais, j'irai regarder.
C'est aussi lui, ça.
Ok.
On te cache des choses, Alex. Et là, on te révèle. Donc, on fait une sorte de guide du routard de Genève pour filer des plans.
Juste pour finir, ouais. Par rapport à Alex, tu as vu son film Le Ravissement de Frankenstein? Parce que, bon, j'ai pensé à toi forcément en voyant ça. En 78, il a fait. Mais c'est une vue subjective. Enfin. la présence de Frankenstein n'est pas très évidente.
Ouais, ça me dit quelque chose justement. C'était,
c'est très subjectif, c'est une succession de pièces comme ça, c'est très géométrique. Mais par contre, dans la démarche,
je crois que c'est
Frankenstein. Et à la fin, tu vois son visage, c'est très net.
Ok, mais, voilà.
Et je te demandais s'il y avait d'autres noms comme ça, tu peux.
Marcus Gentinetta, par exemple. Il fait des choses assez. C'est un style très différent, avec des choses un peu grattées comme ça. Il y a Thomas Ott d'ailleurs qui a fait aussi de l'animation. Après, je retrouve pas toujours les noms, je sais pas.
C'est la question qui tue. Quelles sont tes influences, Alex?
Comme ça,
la question à laquelle tu devais te préparer normalement. Hein.
Ouais.
Ok. On voulait parler un peu cinéma aussi. En fait, quand on s'est fait, quand on a été invité au festival ici, on réfléchissait à cette rubrique. Donc, moi, je réfléchissais un peu au cinéma suisse, et je me suis souvenu d'un film que j'ai été voir il y a pas si longtemps finalement, mais qui date quand même des années 80, enfin de 1985. Pour être plus exact, donc il s'appelle L'âme sœur. Je ne sais pas si c'est un gros classique ici en Suisse ou pas. L'âme sœur de Freddy Murer, qui a l'air. Freddy Murer a l'air quand même d'être un cinéaste assez réputé en Suisse. Mais c'est une histoire qui se passe en fait dans les montagnes. C'est pour ça que j'ai tout de suite pensé à ça. Donc on se retrouve avec une famille qui semble comme ça échouée dans les Alpes suisses, accrochée à un flanc de montagne. Avec un père assez sévère, assez bourru, presque mutique, qui parle très peu, une mère très aimante, mais peut-être même un peu trop étouffante par rapport à ses deux enfants. Il y a une fille qui est assez enjouée, assez naïve, qui a 10, 12, 15 ans, plus ou moins. Et alors, il y a le Boueb, qui est le garçon, qui lui est handicapé mental. Et donc, l'histoire tourne vraiment autour de ces quatre personnages. Donc on est vraiment dans un récit assez envoûtant, assez hypnotique, dû au fait du passage des saisons comme ça, qui est très lent. C'est toute la vie dans la montagne où finalement, entre guillemets, il se passe peu de choses, mais alors qu'eux débordent d'activité, mais peu de choses dans un sens. Il n'y a pas de poursuite de voiture, en tout cas il n'y a pas de fusillade dans ce sens-là. Et puis un jour, le père engueule le Boueb, donc qui est ce jeune garçon handicapé, pour une xième connerie qu'il a fait. Et le Boueb fuit dans la montagne, donc se retrouve comme ça complètement isolé. Et c'est sa sœur qui va le retrouver, qui va le rejoindre dans la montagne. Et il y a en fait une sorte de relation de complicité assez forte entre les deux personnages. Et voilà, il y a une scène très très forte où en fait ils vont se rapprocher tellement fort que c'est un rapprochement qui devient physique, et ils deviennent amants le temps d'une nuit. Et puis je vais pas raconter la suite de l'histoire parce que ce serait, comme on essaye de faire, ce serait du spoiling, donc on va essayer d'éviter ça. Mais voilà, c'est un film, moi je trouvais assez incroyable, et donc du coup quand on a eu cette invitation comme ça, je regardais un peu Assière, les décors, ça m'a tout de suite fait penser à ça. Donc je vous encourage vivement, le but de cette rubrique est évidemment d'essayer de vous faire découvrir ou en tout cas de reparler de choses que vous connaissez. Je vous encourage vivement à essayer de voir ce film, L'âme sœur. Et puis du coup, en cherchant cinéma suisse et tout ça sur le net, je suis tombé sur autre chose, une info que moi j'ignorais, à savoir qu'il y a pas mal de films de Bollywood qui sont tournés dans les montagnes suisses. Donc Bollywood au départ était cette industrie indienne du cinéma que tout le monde connaît, mais qui désigne plus une manière de faire des films qu'un endroit géographique, puisque finalement en fait avec le succès croissant des films indiens qui sont exportés après dans les pays du monde arabe, dans le Maghreb et tout ça, finalement ils ont commencé par agrandir leurs équipes, donc à faire appel à des techniciens étrangers, européens. Puis il y a des acteurs, tout doucement, alors qu'au début, il y avait des acteurs anglais, mais qui avaient souvent des rôles ridicules par rapport à la décolonisation, etc. C'était des petits rôles. Et là, progressivement, il y avait des acteurs étrangers qui avaient des rôles plus importants. Mais ils se sont dit aussi, on va tourner aussi à l'étranger, plus uniquement en Inde, avec ce côté, parce que dans les films de Hollywood, il y a souvent des clips, il y a des chansons, et donc pour ces chansons, il fallait des décors qui fassent rêver, donc il fallait des endroits exotiques, et donc il y a comme ça une série d'endroits exotiques qui ont été sélectionnés. Alors il y a souvent des palais en Angleterre, des beaux châteaux, des choses comme ça, en France aussi. Il y a les plages aux Seychelles, ça c'est quelque chose qui revient de manière récurrente aussi. Et les montagnes suisses. Les montagnes suisses qui sont... ouais, pas seulement les montagnes.
Peut-être que pas en rentrant chez moi, je suis tombé sur un tournage au bord du lac.
Par le chemin que je prenais habituellement pour entrer, donc c'est assez spécial de tomber là-dessus.
Ouais, ben voilà, c'est formidable. C'est pas de la télépathie, mais en effet, moi j'imaginais ici en venant au festival à un moment tomber comme ça sur une équipe ou sur un tournage. Bon, voilà, c'est quelque chose que j'ignorais complètement en tout cas. Et toujours en grattant un peu plus loin, je suis tombé sur une sorte de fusion comme ça entre Bollywood et plus une tradition cinématographique européenne, avec un film suisse qui s'appelle Tandoori Love. Je ne sais pas si tu vois de quoi il s'agit, Alex. Tandoori Love, donc c'est un réalisateur suisse qui s'appelle Olivier Paulus, qui a tourné ce film-là en 2008 et qui en fait adore Bollywood et qui voulait en quelque sorte éduquer le peuple suisse, mais on va dire les Européens, à ce qu'était Bollywood, et donc faire une fusion comme ça entre cinéma indien et tradition cinématographique européenne. Et donc je vais juste lire le pitch de ce film, parce que voilà, moi ça me faisait rire en le lisant, et voilà, ça après à vous de voir si vous irez le voir par la suite. Donc Sonia, qui est le personnage principal, est sommelière dans un restaurant de montagne suisse et fiancée à son patron qui s'appelle Marcus. Son avenir est tout tracé. Mais l'arrivée d'une équipe indienne de tournage et de son cuisinier qui s'appelle Raja, donc au charme irrésistible, va venir tout chambouler. Elle devra bientôt choisir entre sécurité et stabilité d'un côté et une vie d'aventure et de passion de l'autre. Donc voilà, ça, quand j'ai lu ce pitch, je me suis dit « Ah, Tandoori Love ». Alors j'ai vu quelques images et on voit en effet des plans comme ça, typiques cinéma de Bollywood, des clips qui auraient pu être tournés juste sur la montagne qui est en face ici des caves Taveli. Et voilà, je trouvais ça assez surprenant par rapport à ça. Cinéma, et puis on allait enchaîner avec Helvetica, je crois.
Juste pour préciser aux gens que sur le blog, on a mis un extrait de Tandoori Love.
Ah, on a un extrait, voilà. Sur le blog, on a tout ce dont on vous parle.
Helvetica, donc le documentaire sur la typo, Helvetica, de Gary Eustvedt. On se disait que c'était quand même assez incontournable, que s'il y avait bien un endroit pour en parler, c'était ici. Ce documentaire n'est pas réservé aux purs graphistes et typographistes. Personnellement, la typo, c'est pas spécialement un domaine dans lequel je me plonge avec délectation. Mais donc Gary Eustvedt, le gars qui a fait ça, pourquoi a-t-il fait ce documentaire? Parce qu'il s'est rendu compte à un certain moment du pouvoir de la typographie. Parce que la typographie, dans la publicité, dans les différents messages, en fait, la typo, on en a tout le temps partout. Et que en soi, c'est déjà un message, parce qu'il y a des typos très expressives, et puis d'autres beaucoup moins. Et Helvetica, c'est plutôt une typo classique, mais qui est extrêmement répandue. A priori, ce serait la typographie la plus répandue du monde. Et donc, il y a.
Tu peux nous citer quelques exemples, parce que je trouvais ça.
En fait, le métro new-yorkais, déjà. Qui est,
tout le métro new-yorkais en Helvetica.
Voilà, donc c'est une typo qui a été écrite dans les années 1957 et qui était censée. Il voulait apporter une vision assez moderniste et c'est censé pouvoir incarner une espèce de message de renouveau. Donc à partir de ces années-là, ça a été extrêmement utilisé. Donc le métro new-yorkais, c'est assez ancien. Le même designer, donc Massimo Vignelli, a aussi dessiné American Airlines, qui est un des logos, c'est un des seuls logos qui n'a pas bougé, en fait, de compagnie aérienne, qui n'a pas changé. Et alors après, c'est un peu, on décrira un petit peu à la radio comment reconnaître la typo Helvetica. Mais en fait, quand on commence à regarder, on la trouve partout. Donc, je vais attendre.
C'est le direct.
Frédéric Perlman.
Bah oui, bah, je sais pas.
Comment je...
Oui.
Voilà, c'est Christophe, c'est le directeur. Voilà.
Merci Christophe.
Donc Helvetica, c'est la signalisation des trains en Suisse, si je me trompe pas, parce que maintenant j'en regarde un peu partout. Ouais. C'est Jeep, c'est BMW, c'est Toyota, Tupperware, The North Face, Muji, Scotch, Agfa, American Apparel. Donc voilà, enfin et plein d'autres en fait. Donc quand on commence à regarder, elle est partout. Donc au bout d'un moment, forcément, il y a des discussions. Donc le documentaire, c'est aussi beaucoup de graphistes de différents pays qui interviennent par rapport à ça. Donc il y a des inconditionnels d'Helvetica, il y a des gens qui sont vraiment opposés, véritablement opposés. Il y a notamment une américaine dont j'ai oublié le nom, qui considère que c'est le message du capitalisme. Pour elle, Helvetica, c'est la typo qui a supporté la guerre du Vietnam et qui supporte encore la guerre en Irak. Et qui, elle, fait partie de la génération des années 70 qui eux, avaient une typo terriblement expressive quand on pense aux pochettes de disques ou à la typo qu'utilise Baladi, qui dessine lui-même, qui pourrait presque être associée à ce courant-là. Voilà, Helvetica, comment reconnaître Helvetica? Alors, moi, j'ai pris mes petits repères. En fait, l'intérieur du A, c'est comme une goutte. Donc, on dit c'est sans sérif, c'est ça? Il n'y a pas d'empattement?
Oui, il n'y a pas d'empattement, donc c'est sans sérif.
Et donc, voilà, la petite goutte dans le A. Et puis, la fin du E se termine, c'est droit, ce qui permet de reconnaître assez facilement. Et alors, il faut commencer à regarder les marques... et commencer à essayer de la reconnaître. Je pense que c'est assez facile en fait quand on commence
rigueur,
à prendre l'habitude.
Rigueur, lisibilité,
voilà.
Efficacité.
Voilà, en fait elle est assez donc elle est extrêmement lisible et efficace. Et alors comme disait une des graphistes dans le documentaire, elle a ce léger smooth qui permet de dire attention, nous sommes rigoureux mais nous sommes aussi un peu souples. Et donc,
elle est quand même séduisante, quoi.
Voilà,
quelque chose, elle n'est pas trop froide non plus. Et
elle est célébrée notamment pour sa neutralité, ce qui est assez intéressant de voir comment dans son domaine on la rapproche d'une des qualités qu'on attribue à la Suisse, qualité ou défaut par ailleurs, celle qui est celle de la neutralité. Donc c'est pour ça notamment qu'un certain graphiste explique qu'elle est utilisée pour ça, parce qu'elle laisse la place au message sans trop occuper l'avant-poste, comme pourraient le faire certaines typos un peu fantasy.
Donc d'une part, ce document, je trouve que ça commence à... Enfin, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de regarder la typo, je trouve que ça sensibilise, parce que c'est quand même, les gens qui interviennent sont quand même des amoureux qui te parlent de l'espace entre les lettres. C'est un nom, d'ailleurs. Le poids de cette typo, du coup, ça sensibilise d'une part à l'amour de la typographie et l'intérêt que ça peut avoir. Je trouve que par rapport à la bande dessinée, c'est intéressant parce que des fois, ça pêche gravement, je trouve.
Oui, tout à fait.
Et, yeah. Et aussi, d'une manière plus globale, le poids de la typo par rapport, enfin le poids que ça peut avoir dans un message et prendre un petit peu de recul par rapport à ça, parce qu'effectivement, on lit, on absorbe une masse de lettrage impressionnant à la journée.
Le documentaire est aussi intéressant parce qu'il met aussi l'accent sur la production des fontes typographiques. Donc on est passé en une cinquantaine d'années d'un dessin à la main à quelque chose fait sur ordinateur et de manière beaucoup plus directe. Le créateur de l'Helvetica raconte qu'il a commencé par gratter des lettres à l'échelle A1 sur des bouts de métal. Donc on est vraiment, le métier a changé du tout au tout. Et donc ça aussi c'est quelque chose qui est assez particulier, qui nous ramène à l'histoire de l'impression et donc aussi à l'histoire de la bande dessinée. Alors on va
enchaîner avec...
J'enchaîne direct,
ouais.
Moi je vous ai amené des auteurs qui ne sont pas des inconnus du tout dans l'art contemporain, mais qui sont des personnes clairement installées dans l'art contemporain, qui sont Fischli & Weiss. Fischli & Weiss c'est un duo qui commence à travailler en 79 ensemble, et un de leurs premiers boulots est assez symptomatique de leur démarche dans l'ensemble, c'est la série des saucisses que je vous montre maintenant. Ici, on a une photographie de la série des saucisses qui s'appelle « Dans le magasin de tapis ». Et une fois qu'on a eu ce titre, on voit que c'est que la pancetta et le salami deviennent immédiatement des petits morceaux de tapis, que les cornichons qui sont disposés ça et là sont en train de jauger avant de ramener chez eux. Une autre photographie qui s'appelle « Le défilé de mode ». On a vraiment quelque chose qui est très, très humoristique. On imagine dans l'art un peu froid des années 80, on est en pleine époque conceptuelle, que ce genre de boulot a dû un peu changer. Ici, on a une photographie que je ne connaissais pas, qui est visiblement une photographie dans les montagnes.
et ici un accident de bagnole avec des gros cervellas. Donc c'est une série de photographies qui était clairement humoristique, faite avec des bouts de ficelle et des saucissons, et qui annonce vraiment ce boulot qui est vraiment très très humoristique et dans lesquelles on va retrouver énormément de choses qui ont trait au quotidien. Ils ont ensuite continué à faire des photographies avec une série que moi je trouve qui est la première que j'ai découverte, qui s'appelle une après-midi tranquille. C'est une série de photographies reprenant des différents objets assemblés, une râpe à fromage, un concombre ou alors d'autres choses ici faites avec des scies d'autres objets comme ceci. Après, ils ont fait la série avec des objets plus complexes comme des pneus de bagnole et des chaises, ce genre de choses. Mais les plus belles sont les plus banales, en fait. Ça s'appelle une après-midi tranquille et on les imagine bien, en effet, prendre un café et soudain se dire, tiens, si je mets ce concombre en équilibre sur cette tasse, celle-ci qui est une des plus radicales, une courgette, une carotte et une râpe mises ensemble deviennent une sculpture. Je voulais avoir la fameuse Ben-Hur, mais je ne l'ai pas.
Il y a Ben-Hur. Ça sont des installations qui étaient présentées au public
ou... Non, c'était photographié et ensuite présenté sous forme de photographie noir et blanc, un peu crapuleuse, donc quelque chose qui n'était pas du tout spectaculaire. Et ensuite, ils vont commencer à travailler en sculpture, continuer des photographies sur d'autres modes et faire de la vidéo. Par exemple, c'est des gens qui ont fait, ils disaient, on a fait de la vidéo, mais plutôt que faire du vidéo art comme on le faisait à l'époque, on va plutôt faire des trucs un peu marrants. Et ils ont fait, par exemple, une espèce de film d'une vingtaine de minutes dans lesquels ils sont habillés en rat et en panda, taille 1-1, donc des costumes assez hideux. Et ils font une enquête dans le milieu de l'art, donc se baladent de manière un peu molle dans des musées, mais aussi dans des aires d'autoroute, sur des ponts autoroutiers, ce genre de choses, tout en discutant d'une voix assez monocorde. Donc des choses tout à fait décalées. Et j'en reviendrai sur le cours des choses, qui est leur boulot le plus connu, qui est une vidéo de 29 minutes, une vidéo dans laquelle on voit une séquence, un enchaînement d'actions assez compliqué. Donc on a un sac poubelle qui se détorsade sur une corde et pousse un pneu. Ce pneu va ensuite pousser, faire tomber un pilier qui lui-même remet en mouvement d'autres choses. J'ai ici un petit morceau que je vais passer pendant que je parle. Qui me permettra de voir une série d'enchaînements. Le voici un pneu. C'est un système qui était repris et qui, étrangement, je l'ai découvert en préparant l'émission, nous rapproche de, on appelle ceci une machine de Goldberg. C'est-à-dire un enchaînement de choses très complexes pour arriver à un résultat extrêmement réduit. Donc, puisque tout ceci va arriver finalement à allumer une petite sculpture avec des choses qui flambent. Et en fait, cette machine de Goldberg est due à un dessinateur de comics des années 30 américain qui a dessiné toute une série de machineries très complexes pour faire des choses extrêmement simples. Par exemple, un type soulève une cuillère et cette cuillère attachée à une ficelle, à un oiseau qui s'envole poussant sur une échelle, etc., va finir par envoyer une serviette qui lui essuiera la bouche une fois qu'il aura mangé cette cuillère. Et donc, Goldberg en a dessiné pas mal, ce qui l'a rendu célèbre. Et donc, on appelle cette machinerie Fischlein-Weiss machine de Goldberg par référence à ce dessinateur de BD. Donc finalement, Fischlein-Weiss, qui sont des purs artistes contemporains, sont quand même liés quelque part à la bande dessinée. Et en tout cas, on peut quand même célébrer chez eux une façon d'avoir fait revenir la narration dans l'art contemporain. C'est assez rare pour être souligné. On disait tout à l'heure qu'on préfère le gravzine qu'une bonne petite histoire une fois qu'on est en galerie. Ici, ce sont des gens qui n'ont pas eu peur de raconter des trucs. Et je vais terminer par cette série que moi j'adore personnellement, qui s'appelle Soudain, cette vue d'ensemble, qui est une série de sculptures qu'ils ont fait quelque part dans les années 80, puis ressorties dans les années 2000. Et ils ont fait en fait quelque chose comme 500 sculptures en terre glaise, même pas cuites, dont par exemple cette brique, dont ces petits personnages où on dit drôle, fou, donc une façon de distinguer. Ici c'est John Lennon, c'est Mick Jagger et Brian Jones rentrant chez eux satisfaits après avoir composé I Can't Get No Satisfaction. Donc une série de petites sculptures comme ça, petits, gros, donc deux sculptures d'une souris et d'un éléphant qui sont exactement de la même taille en fait. Et c'était installé comme ça sur des petits socles et c'était des expositions assez formidables. J'adore personnellement la tranche d'autoroute que l'on voit ici à l'écran. Simple, rudimentaire et il y a quelque chose d'extrêmement magique dans tout ceci. Un pain. Il y a aussi une très belle Kalachnikov mais que je n'ai pas retrouvée en terre glaise. Donc voilà, excellent boulot. Peut-être on peut arrêter ceci, je ne sais pas s'il y a le temps.
Bon, on voulait parler de Robert Frank, allons-y rapidement.
Allons-y rapidement. Donc un autre, pour passer dans le versant de la photographie, j'avais amené quelques photographies de Robert Frank, qui est un photographe suisse, d'origine suisse, et il est assez intéressant parce que c'est un photographe d'une part de l'exil, c'est quelqu'un qui est parti de la Suisse assez rapidement, qui a commencé à aller en France, puis en Angleterre, il s'est retrouvé au Pérou, et il traversera l'Amérique avec Kerouac en 58, donc en pleine, on est vraiment dans la Beat Generation à fond, et c'est un quelqu'un qui va amener dans la photographie la notion d'errance et aussi de subjectivité à une époque où la photographie est dominée par la photographie de reportage, c'est-à-dire une façon d'aller chercher le monde extérieur et de le restituer, donc une photographie extrêmement objective. Il va opposer à ça une photographie vraiment de la balade, de la perte, de l'errance. Il va faire ce fameux bouquin qui s'appelle Les Américains, qui est son boulot le plus connu, dans lequel il va récolter 24 000 images en traversant donc les États-Unis le long de la route 66 et en errant un peu, et en photographiant toute une série de choses avec parfois l'appareil tenu à bout de main, parfois l'appareil penché, tenu au niveau du monde, brille. Des photographies qui sont faites dans des endroits où il y a très peu de lumière, donc des temps de pose très lents, très peu de profondeur de champ, des photographies floues, très très en décalage par rapport à le rapport à la technique de l'époque, qui est plutôt d'une photographie très très dominé. Et il va à travers ça amener une vision très pleine de spleen de la photographie. Alors actuellement il vit à Mabou au fin fond du Canada, en train de déprimer. Ses deux gosses sont morts de son vivant, sa femme l'a quitté dans les années 80. Ici c'est une photographie qui est prise d'une personne morte au bord d'une route. Et il a fait je voulais citer juste un bouquin qui s'appelle Thank You, qui est sorti en 96 et qui reprend toute une série de choses qu'on lui a envoyées. Des gens lui envoient des cartes postales, des photographies annotées, des petites lettres, ça, pour lui dire tenez bon, tellement le spleen et le malaise de ce type sont inscrits dans son travail, et tellement il a communiqué là-dessus. Il a fait aussi des films et ce genre de choses. Et bien les gens sont pleins d'empathie pour ce personnage et lui envoient régulièrement des choses comme pour le soutenir, car on sait que là-bas au fin fond, là où il y a que de la neige toute l'année, il doit pas être méga heureux. Et en retour, il a publié ce bouquin qui s'appelle Thank You, qui est un petit livre dans lequel il montre ces objets qu'il a reçu comme une manière de remercier les gens qui ont envoyé ça et de montrer ces messages qui sont eux-mêmes des messages de remerciement. Beaucoup de gens disent merci à votre photographie, elle m'a apporté beaucoup. Et donc il y a un espèce de mouvement d'aller-retour entre les deux qui est assez beau et qui est typique de lui. C'est un photographe que j'aime beaucoup, c'est le premier que j'ai découvert en photographie et qui m'a amené à moi-même à faire de la photographie en son temps.
Très bien. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour cette rubrique. Merci Alex de nous avoir accompagnés. Je suis assez content que tu m'aies dit que tu aies vu ce tournage de film indien. C'est bien du vécu. Merci à toi. On va s'écouter un morceau de Diabologum qui s'appelle Il faut, un morceau de 96 qui nous semble être une bonne introduction. Apparemment, il y a des fans dans le public. Il nous semblait être une bonne introduction pour recevoir Benoît Pretseil. On fera le lien après entre le morceau Diabologum et son travail. Voilà, c'est parti.
Merci Alex.
Bonjour, je m'appelle. J'habite à Saint-Étienne, je marque des buts, je lance des bouts de neige. Je fais du surf sur mer. J'hiberne au printemps pour la forme, je vous y dévoile de même. J'organise des paris sur terrain de balcrap, les portes de l'histoire de l'art. Prenne une claque, me prends l'œil gauche, me bouge pour l'œil droit. Les bras ne comptent pas, les jambes c'est trop facile depuis j'ai remarqué.